profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui est polyvalent. Il a étudié la philosophie, il a soutenu sa thèse sous la direction de Roland Barthes, puis s'est consacré à l'écriture, romans, essais, biographies et bandes dessinées. Sa passion? Le récit, sous toutes ses formes, avec ou sans phylactère, à l'écran ou sur papier. La vie des autres aussi. Il tient la biographie comme élément indissociable du travail de Derrida et de Paul Valéry, par exemple. Mais sa passion première, plus encore que la bande dessinée, c'est Georges Rémy, alias Hergé.
Ce soir, les personnages d'Hergé en quête de leur auteur. Le capitaine Haddock, Bianca Castafiore, Dupont O.N.D., Tintin et Milou interviewent Hergé, le père de Tintin.
Monsieur Hergé, je voudrais vous demander quelque chose. Hein? Oui. Je ne comprends pas très bien pourquoi je chante toujours l'air des bijoux. Je ris, t'aimes voir chez belle, on se
Milou, 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 Milou.
Vous comprenez, parce que oui, toujours oui. Comme ça, alors on dit cette vieille, elle radote. Hein? À mon âge, je peux me permettre encore.
Vous aimeriez vraiment chanter autre chose?
Oh, j'aimerais, oui, j'aimerais. Oh,
mais, écoutez, je vais essayer de faire ça. Mais cependant, il me semble que pour un personnage comme ça, un timbre est toujours le bien. Et d'ailleurs, il me semble que c'est l'air dans laquelle vous êtes la plus célèbre.
Ah, j'étais célèbre là-dedans. Ça, je ne peux pas dire, mais vous savez, j'ai souviens aussi dans Carmen. Hein?
Est-ce que c'est comme ça, Hergé, vous imaginez la voix de vos personnages?
À vrai dire, j'avais pas imaginé cette voix.
Parce qu'enfin,
ils étaient non pas muets, mais ils parlaient de façon non audible, sous une espèce d'ultrason. Le professeur Tournesol connaît d'ailleurs ça très très bien, les ultrasons, n'est-ce pas?
Ah oui, je parle bien.
Et je n'imaginais pas leur voix. Maintenant, ces voix sont là et elles sont, je trouve, extraordinairement bonnes.
Vous n'en entendriez pas d'autres.
Ah non.
Eh bien, ça, vous savez, c'est gentil, je vous assure, parce que, pour nous, c'est une consolation. Hein, vous ne trouvez pas?
J'étais très heureux de rencontrer enfin mes personnages et de les entendre vraiment comme ça et de les voir en face de moi.
Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Adèle Van Rett.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Est-ce que vous connaissiez cette archive où Hergé discute avec ses propres personnages?
Non, et particulièrement avec la Castafiore, qui m'est chère, la seule grande figure féminine de l'œuvre, et puis celle qui est au centre de l'album Les bijoux de la Castafiore, que j'ai étudié voici bien des années avec Roland Barthes. Et je crois que parmi mes petits titres de gloire, il y a d'avoir fait lire Les bijoux de la Castafiore à Roland Barthes, qui n'était pas un spécialiste de la bande dessinée, mais qui était un homme d'ouverture, de curiosité et surtout d'accueil dans une université française à l'époque, un peu lointaine, où ce genre de choses restait très bizarre, un peu mal vu.
Je suis contente de vous avoir fait découvrir cette archive. Si vous ne la connaissiez pas, elle date du 15 novembre 1960. J'ai dit que une de vos passions, c'était Hergé. Est-ce que c'est exagéré de dire ça?
On peut dire que c'est une passion, puisque c'est sans doute l'auteur que j'ai commencé à lire le plus tôt, avant même de savoir lire, en déchiffrant les images, peut-être avec Tintin au Tibet, et c'est un de ceux qui n'a cessé de m'accompagner, son œuvre, bien sûr, les personnages qui sont inoubliables, mais aussi l'homme, Hergé, dans ses contrastes et ses complexités, puisque... voilà, je lui avais consacré une biographie qui était à la fois empathique et sans concession.
Oui, je l'ai dit, vous vous intéressez à la bande dessinée, vous êtes également auteur de bande dessinée, vous avez écrit des biographies. On va passer 50 minutes ensemble à évoquer ensemble votre travail, justement Benoît Peters. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie, on va interroger vos influences philosophiques et extra-philosophiques, entrer dans votre atelier de scénariste et d'écrivain, et puis interroger avec vous le rôle du philosophe dans la cité. Mais avant cela, s'il fallait définir un terme ou une chose ou un concept autour duquel s'articule votre travail, aussi protéiforme soit-il, ce serait peut-être celui du récit. C'est ce que j'émettais comme hypothèse dans mon chapeau. Le récit sous toutes ses formes, est-ce que ce serait une bonne manière d'entrer dans votre travail?
C'est vrai. Je crois que j'aime tout transformer en récit, y compris les idées. Et c'est ce qui me passionne, notamment dans l'exercice de la biographie ou parfois de l'essai, c'est de choisir une matière qui peut sembler austère. Et, par exemple, pour la plupart des gens, quoi de plus austère ou impénétrable que la philosophie de Jacques Derrida? Et transformer cette matière en récit, ce qui ne veut pas dire la romancer. Parce que je reste, quand je suis dans le domaine de l'essai ou de la biographie, très attaché au vrai, à la référence, mais j'ai l'impression que les idées se racontent, que les idées sont elles-mêmes une aventure, et c'est quelque chose que je crois savoir faire. Alors, il faut beaucoup se pénétrer d'un sujet, il faut entrer dedans très longuement pour voir peu à peu sa dimension narrative se dessiner. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et même quand j'évoque l'histoire de la bande dessinée, par exemple, j'ai tout le temps envie, non pas de raconter les histoires des différentes bandes dessinées, mais de raconter ce mouvement de la création, de la construction d'un langage, de la construction d'un art.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
La philosophie, bien sûr, dans le système scolaire, on la rencontre fortement en classe de terminale. En plus, j'étais en classe de terminale littéraire. Et avant cela, c'est un mot, ce sont des fragments de lecture. J'étais très jeune, par exemple, lecteur de Rousseau, mais le percevais-je comme un philosophe ? Je ne suis pas sûr, même le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, les rêveries d'un promeneur solitaire, les pensées de Pascal que j'avais un peu parcourues, parfois en cours de français, on a des incursions. Est-ce que je les percevais vraiment comme de la philosophie ? Est-ce que je voyais Diderot comme un philosophe ? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je dirais que peut-être une certaine dimension littéraire de la philosophie est toujours extrêmement présente dans les textes qui m'intéressent. Donc j'ai quelquefois du mal à ne pas considérer la philosophie d'abord comme un texte et le philosophe d'abord comme une voix ou un ton.
Et vous arrivez à proposer une définition de ce qu'est la philosophie ? Comment vous la définissez-vous pour vous-même, au fond ?
Oui, une définition me serait difficile ou me ferait peur. On a envie, j'ai plusieurs fois eu le sentiment de me trouver plutôt du côté de la, si j'ose dire, presque prétentieusement, de la pensée que de la philosophie. C'est une distinction qui est au cœur de grandes œuvres qui me touchent, comme celle de Paul Valéry ou de Walter Benjamin, qui n'appartiennent pas stricto sensu à l'univers de la philosophie et qui pourtant la rencontrent, la croisent, parfois s'en méfient, parfois disent s'en méfier. Au fond, peut-être qu'ils n'ont pas cette dimension professorale qu'on associe quelquefois à la philosophie. Peut-être ne font-ils pas strictement partie du corpus. Peut-être n'ont-ils pas de système. Mais les philosophes doivent-ils tous avoir un système ? C'est une vaste question. En tout cas, quand on est jeune, quand on est adolescent, qu'on entend parler de la philosophie, on a un peu l'impression qu'il s'agit de grandes constitutions de systèmes. Alors, la philosophie, au fond, c'est quelque chose qui m'accompagne d'autant plus qu'elle est libérée pour moi de toute obligation professionnelle. En ce sens, je serai ami de la philosophie plus que dans la profession du philosophe. Et je pense qu'une des choses qui m'attriste quelquefois, c'est que pour tant de gens, la philosophie reste associée à une année difficile, l'année unique de rencontre avec une matière, orientée vers un examen, une dissertation mythique, le premier jour du bac, une chose qui finalement paraît extrêmement incertaine dans son résultat, quelle que soit la culture qu'on peut avoir ou le plaisir à écrire. Et j'aimerais qu'on libère au fond, je me dis de temps en temps, mais la philosophie est si importante d'abord qu'il n'y a pas de raison de la commencer dans l'enseignement seulement en terminale. Et on sait que beaucoup de philosophes ont tenté ou ont voulu ou ont fait des expériences de philosophie avec les plus jeunes.
Et ça marche très bien.
Et ça marche très bien. Mais au fond, et c'est une modeste proposition que je fais, que ça ne soit plus une épreuve classique du bac, mais simplement une de ces épreuves, comme le dessin ou la musique, qui peuvent vous faire gagner des points. C'est-à-dire qu'on sorte de l'idée qu'il y aura une sanction pour l'apprenti philosophe qui quelquefois n'a eu que quelques heures par semaine et qui est tombé sur un professeur soit excellent comme ça a été mon cas, soit peu pédagogue comme cela arrive hélas quelquefois. Donc qu'on n'ait plus cette idée que la philosophie c'est une matière où on peut perdre beaucoup de points, rater une mention, voire rater le bac tout court, mais que ce soit simplement une matière d'éveil qui pourrait éventuellement vous en faire gagner et qui continue à vous accompagner. Évidemment, vous faites ici peut-être le cours de philosophie le plus écouté de France et merci de le faire, mais c'est un cours sans examen, ce sont des fragments de vie philosophique, de rencontres, et non pas quelque chose dont on serait supposé maîtriser toute la rhétorique et toute l'histoire après seulement une année.
Mais ces rencontres ne seraient rien sans les professeurs de philosophie qui viennent chaque jour à ce micro
et dont
et
certains
qui font vivre
sont
cette
merveilleux.
Émission. Et ben la plupart d'ailleurs, je vous garantis. Mais alors juste. Encore un point sur votre rapport à la philosophie. Enfin, ça va être le fil conducteur de cette discussion, mais on va progresser avec vous dans votre parcours. Vous qui avez multiplié les activités de création, auteur, Je l'ai dit, scénariste de bande dessinée, biographe de Derrida, de Paul Valéry, passionné d'Hergé. Qu'est-ce que vous apporte la philosophie que les autres disciplines ne vous apportent pas?
Alors, là, je me situerai au début de mes études, où j'étais fasciné avant tout par la littérature, pas mal par le cinéma aussi, et où pourtant j'ai choisi comme spécialité la philosophie. Après avoir fait une hippocagne et une cagne de manière un peu libre, puisque j'ai écrit mon premier roman quand j'étais en cagne, ce qui n'est pas la meilleure façon de préparer le concours, donc je me suis rapidement détourné de cette voie et des concours en général, et j'ai poursuivi à la Sorbonne en philo. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que il y avait là une rigueur, il y avait là un exercice de pensée, une exigence, somme toute, que je ne trouvais pas tout à fait dans l'enseignement des lettres ou dans l'enseignement des arts, qui peut lui aussi être excellent. Mais disons que j'avais l'impression que la littérature était pour moi une affaire privée, que la lecture et l'écriture communiquaient directement, que je lisais les penseurs et les critiques qui m'intéressaient, alors qu'en philosophie, j'avais à apprendre. Et cet exercice de la rigueur a continué à m'accompagner pendant ma vie. Par exemple, je n'étais pas, pendant le secondaire, un très bon élève dans les disciplines scientifiques. Vous savez, cette coupure un peu idiote qu'on a beaucoup entretenue entre les littéraires et les scientifiques. Et puis j'ai découvert à peu près à 19 ou 20 ans une passion pour l'épistémologie, pour l'histoire des sciences. Je n'ai pas de véritables compétences ni en physique, ni en chimie, ni en maths, mais par contre une énorme curiosité pour ces communications permanentes entre l'exercice de la pensée, disons philosophique, et le travail scientifique, la logique, etc. Voilà des choses que la philosophie m'ont apporté et continue à m'apporter. Et je pense à ce titre-là que oui, c'est quelque chose qui est avec vous pour la vie et qui court parallèlement à vos autres travaux et vos autres préoccupations, d'autant plus qu'il n'y a pas de sanctions.
Au fond, j'ai tendance, et c'est peut-être un peu ambigu, mais j'ai tendance à penser par phrase, disons, et non pas à penser par pensée. Et c'est en cela que peut-être ma situation est un peu difficile à repérer. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas non plus peut-être tout à fait un écrivain comme on l'entendait il y a 50 ans. Je vais de la pensée à la phrase et réciproquement. Et c'est cela qui est un peu difficile à situer peut-être.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, aujourd'hui en compagnie de Benoît Peters. Vous venez d'entendre la voix de Roland Barthes, c'était une archive du 13 février 1975. Dans cette archive, il se définit ni comme philosophe, ni comme penseur, ni comme écrivain. On ne sait pas trop comment il se définit. Vous, vous savez comment vous vous définissez, Benoît Peters?
En tout cas, je sais comment je définirais Barthes.
C'est-à-dire, comment?
Comme penseur et comme écrivain, et comme davantage penseur et davantage écrivain que beaucoup de ceux qui croyaient lui être supérieur et ne voyaient en lui qu'un critique ou un terroriste dans les années où il était vivant.
C'est de la modestie, là, ce qu'on entend.
C'est une modestie non feinte. Hein. Je crois que le doute de Barthes jusqu'à la fin de sa vie sur le fait qu'il soit écrivain, qu'il soit l'auteur d'une œuvre véritable, ce doute est là. Quand on lit aujourd'hui non seulement La Chambre claire ou Fragment d'un discours amoureux, mais un texte posthume magnifique comme Le journal de deuil, on voit tout ce que Barthes pouvait représenter comme exercice d'une pensée et d'une sagesse inséparable d'une écriture. Et à ce titre-là, Barthes reste pour moi, et j'ai eu la chance de le connaître et de le côtoyer trop brièvement, puisqu'il est mort en 1980, je n'avais pas terminé mon travail avec lui, mais il reste une référence essentielle par sa curiosité, l'idée qu'il n'y a pas de mauvais objets, qu'il n'y a que des regards pauvres, ça c'est fondamental, chez Barthes, par son ouverture et puis par quelque chose que j'ai mis du temps à vraiment comprendre. Vous savez, il y a des leçons qu'on reçoit dans l'après-coup, des phrases qui vous sont dites et qui résonnent parfois 10 ou 20 ans plus tard, par un certain rapport éthique au monde, à la rencontre, à la confiance. Je me souviens du jour où je lui avais présenté le travail que je voulais réaliser sous sa direction, et puis il m'écoute, il me dit « Oui, c'est très bien, mais pourquoi ?» Ce désir d'un travail universitaire, n'êtes-vous pas déjà de l'autre côté? C'est un genre de phrase qui peut vous faire réfléchir longtemps. Je ne sais pas si j'étais de l'autre côté, je ne sais pas si j'y suis, je ne sais pas. Mais il sentait quelque chose. Sans doute était-ce aussi une partie de sa hantise, de ses propres préoccupations, que ces deux côtés, ce côté du savoir et ce côté de l'écriture peut-être, ce côté de la fiction, de l'imagination. Et voilà, la présence de quelqu'un comme Roland Barthes reste extraordinairement forte pour moi dans l'après-coup, un après-coup qui est bien sûr nourri de lecture et de relecture, mais aussi d'un rapport au monde.
Et c'est avec lui que vous avez commencé une thèse sur les bijoux de la Castafiore, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Donc, Barthes accueillait à l'école pratique des hautes études un petit groupe de gens aux préoccupations très différentes, mais qui, toutes et tous, n'auraient pas pu trouver leur place dans les cadres. Au fond, il avait le sentiment qu'il était de son devoir, lui qui n'avait pas grandi dans les cadres, hein, qui, à cause notamment de son long séjour de jeunesse en sanatorium, n'avait pas pu suivre la voie classique, il se retrouvait là, dans ce centre d'études transdisciplinaire, et je me retrouve très bien dans ces mots, dans cette idée. Alors, aujourd'hui, voilà, les cloisonnements entre disciplines, je crois, ont été battus en brèche un peu partout dans le monde anglo-saxon, puis chez nous. À l'époque, ce n'était pas évident et une personne comme Barthes était vraiment libératrice.
Je ne prends pas beaucoup de plaisir à écrire, c'est-à-dire à me trouver devant une feuille de papier et à faire des phrases. En revanche, j'aime certaines manières de parler la philosophie, qui pour moi est une manière d'écrire. Par exemple, j'aime enseigner dans certaines conditions. Alors, c'est aussi une écriture, c'est une certaine forme d'écriture. Et je crois que dans ce que j'écris, alors au sens de la graphie ou de la publication, l'expérience de la voix, du rythme, de ce qu'on appelle la parole, se marque toujours. Donc j'essaie de trouver une certaine économie de plaisir dans ce qu'on appelle la philosophie.
Ça vous fait sourire d'entendre la voix de Jacques Derrida, Benoît Peters ?
Ça me touche, c'est une voix que j'ai beaucoup entendue. Comme étudiant, j'allais suivre clandestinement son séminaire, enfin je veux dire le séminaire de la rue d'Ulm. Et puis évidemment, j'ai entendu de multiples émissions radio quand je préparais la biographie. Et le rapport de Derrida à l'écriture est une des choses qui m'a absolument fasciné. Et si c'est pour moi mon philosophe, enfin je veux dire le philosophe que j'ai le plus lu dès très jeune, même ouais, parfois sans le comprendre, c'est sans doute à cause de ce rapport si particulier à l'écriture. D'abord parce que Derrida lisait la philosophie comme un texte. Lisant par exemple le Phèdre de Platon, il s'intéressait à toutes les métaphores, à toutes les nuances du discours, à tout le jeu du dialogue et des interlocuteurs. Il ne cherchait pas à nous résumer les idées de Platon ou son système, mais aussi parce que dans sa manière d'écrire la philosophie, avec différentes périodes, des livres comme Glas ou La carte postale, sont vraiment des livres d'écrivains. Et tout à la fin de sa vie, c'est un rendez-vous manqué finalement, parce qu'à quelques jours de sa mort, il a été pressenti pour le prix Nobel de littérature. Et je pense que rien n'aurait pu lui faire davantage plaisir, lui qui tout jeune était venu à la philosophie par la lecture de Camus, algérien comme lui, et comme lui, pris entre un pôle d'une écriture lyrique et un pôle d'une écriture de savoir. C'est une référence que Derrida a rarement évoquée, celle de Camus, mais elle est très forte. Plus tard, il y a eu bien sûr celle de Sartre aussi. Et cette idée d'une œuvre totale, cette idée d'une philosophie qui ne doivent pas choisir, cette idée aussi, et qui est centrale chez Derrida, d'une philosophie qui laisse une grande place au sujet qui énonce, à sa voix, à son ton. C'est la tradition de Saint-Augustin, de Nietzsche, de Kierkegaard. C'est quelque chose que l'on retrouve très très profondément dans l'œuvre de Derrida, où l'autobiographie a droit de citer, mais pas comme une autobiographie qui serait détachée de l'œuvre, mais qui la nourrit et l'innerve profondément. C'est très bizarre d'ailleurs parce que beaucoup de gens ont de Derrida l'image d'un philosophe froid et presque nihiliste, alors qu'au fond c'est aussi une philosophie du... Oui, et dans certains textes très difficiles. Moins dans son enseignement et moins dans ses entretiens, comme vous le remarquez ici. Il y a chez lui, qui était un grand pédagogue, un souci de l'autre, et parfois aussi peut-être une écriture qui est datée. Mais quand on prend un texte comme le monolinguisme de l'autre, où il parle justement de son enfance, de son rapport à la langue arabe refoulée. Quand on pense à Circonfession, qui est une relecture des confessions de Saint-Augustin, mais en même temps une réflexion sur la circoncision et sur une sorte de deuil de sa mère qui est en train de s'éteindre tandis qu'il écrit, on voit ce qu'est une philosophie incarnée. Et ça, je pense que c'est fondamental. Si je n'entends pas la voix d'un philosophe, alors Rousseau, c'est exemplaire, évidemment, mais... Pascal l'est aussi, Nietzsche ô combien. Quand je n'entends pas la voix d'un philosophe, quand j'entends un enseignant, simplement, j'ai un peu de mal.
Est-ce pour cette raison que vous avez choisi de travailler sur une biographie de Derrida, au lieu d'écrire, pourquoi pas, un ouvrage sur la philosophie de Derrida? Vous avez choisi la voie biographique, pourquoi?
J'aurais bien été incapable d'écrire un ouvrage d'introduction à la philosophie de Derrida.
Oh, c'est pas seulement ça, vous avez un goût pour la biographie.
Même si, bien sûr, raconter la vie d'un philosophe, ou la vie d'un scientifique, ou la vie d'un psychanalyste, comme Ferenczi aujourd'hui, c'est bien sûr aussi s'intéresser à leur œuvre. On va pas les détacher, bien sûr. Mais cette voie de la biographie était une façon de montrer que cette pensée apparemment détachée avait une histoire, qu'elle avait un corps, que les idées n'étaient pas nées comme ça dans une sorte de ciel vague, mais souvent dans des amitiés et des affrontements. Derrida pense beaucoup la philosophie, l'histoire de la philosophie, comme un Kampfplatz, une scène de combat. Et cette dimension-là me semblait pouvoir être très bien racontée. Et je me disais que là, peut-être, mon expérience de narrateur, mon expérience de raconteur d'histoire pouvait servir. Et servait aussi à peut-être désintimider, c'est-à-dire nous montrer que cette œuvre, ayant une histoire et un sujet, pouvait toucher tous ceux que les aventures intellectuelles ne laissent pas indifférents.
Mais c'est un vrai parti pris de parler d'un auteur, d'un philosophe, d'un intellectuel à travers le prisme biographique. Je pense à la querelle entre Proust et Sainte-Beuve. D'un côté, Sainte-Beuve qui dit « il faut connaître les éléments biographiques d'un auteur pour comprendre son œuvre ». De l'autre, Proust qui dit « mais non, au contraire, ne réduisons pas l'œuvre à l'homme, distinguons l'œuvre de l'homme ». C'est une chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Vous avez choisi le côté biographique. Est-ce que c'est uniquement, comme vous le dites, par impuissance à écrire un livre vraiment sur la pensée? J'en doute. Vous avez écrit la biographie de Derrida, vous avez écrit une biographie sur Paul Valéry, vous faites paraître une biographie de Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse. Il y a donc quelque chose dans la biographie qui vous plaît particulièrement.
Bien sûr, c'est essentiel pour moi. Et pourtant, dans ma génération, c'était une question compliquée. Alors, vous parliez de Proust. Si Proust attaque Sainte-Beuve, c'est parce qu'il est contre Sainte-Beuve par certains côtés, mais aussi parce qu'il est tout contre Sainte-Beuve. Vous savez d'ailleurs qu'au départ, le contre Sainte-Beuve, c'est presque un roman, c'est un début de la recherche. Et la question de la biographie et de l'autobiographie chez Proust, elle est évidemment présente. Il ne lutte qu'avec lui-même. Il est dans une dialectique avec cette idée. Ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, on a eu une sorte de vision un peu mécanique de la biographie. Valéry lui-même a beaucoup lutté contre cette idée, c'est-à-dire d'une application, disons, des humeurs de Racine au plus beau vers de Bérénice. L'idée qu'il y aurait comme ça une sorte de translation directe. Bien sûr, je ne pense pas cela, et toute la modernité qui m'a formé, Foucault, Barthes, Bourdieu, Lacan et bien d'autres, luttaient contre ces idées-là. Ne serait-ce que parce qu'il fallait faire une place à l'inconscient, l'inconscient individuel, à l'inconscient social, et à tant d'autres dimensions qui nous empêchent de voir dans l'œuvre une application ou une conséquence directe de la vie. Mais l'idée de la mort de l'auteur dans sa radicalité, l'idée de l'illusion biographique évoquée par Bourdieu dans sa radicalité, me semble tout aussi illusoire. Et il est d'ailleurs frappant pour nous de voir que les grandes figures de cette époque, Althusser, tragiquement, Foucault, avec sa mort précoce, ou Barthes, sont devenus pour nous des figures qui nous passionnent, non seulement par leurs livres, leurs écrits, leurs travaux critiques, mais par le tout de ce qu'ils ont représenté. Par une figure totale dont le corps et les accidents de l'histoire ne peuvent pas être écartés. Et je crois profondément qu'il y a une nouvelle manière d'approcher la biographie qui ne prétend pas à une sorte de réduction. Je ne dis pas, par exemple, que pour lire Derrida, il faut commencer par lire ma biographie. Mais que, disons, dans la manière qu'avait Heidegger d'écarter d'emblée la question biographique. Vous connaissez sans doute cette phrase fameuse sur Aristote. Aristote est né, il a écrit et il est mort. Ce n'est peut-être pas de la part de Heidegger tout à fait innocent. Et que Heidegger, pour nous, pour le meilleur et pour le pire, est inséparable aujourd'hui de sa biographie, comme l'est Anna Arendt, comme l'est Wittgenstein, qui demandait s'il était bien nécessaire d'indiquer même sa date de naissance en quatrième de couverture du Tractatus Logico-Philosophicus. Aujourd'hui, Wittgenstein ou Walter Benjamin, je parle de figures qui me sont chères, existent aussi pour nous dans les accidents de leur vie, dans leurs difficultés à être, et vouloir séparer ses œuvres de celui qui leur a donné naissance me paraît naïf, un peu vain, ou quelquefois tout simplement factice. Derrida, comme Lacan, comme bien d'autres, était curieux de la vie des philosophes qui les intéressaient. Et bien sûr que, par exemple, Derrida, sur Kant, sur Nietzsche, sur Hegel, en savait beaucoup et ne manquait pas une information. Peut-être aurait-il eu des réticences à l'idée que sa propre biographie soit écrite, mais en tout cas, il a laissé l'immensité de son archive personnelle, y compris des documents assez privés, assez personnels, être rassemblés à l'IMEC ou à Irvine en Californie. C'était donc bien pour que quelqu'un vienne les regarder, et c'était donc bien qu'il pensait que ce n'était pas totalement étranger à ce qu'il avait pu accomplir.
Comment expliquez-vous que pour des raisons très différentes sans doute, les deux autres personnes auxquelles vous avez consacré des biographies, Paul Valéry et Sándor Ferenczi, soient beaucoup moins connues aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant et que ne l'est Derrida ou que ne l'est Barthes encore moins?
Alors, assez curieusement, je donne le sentiment d'être quelqu'un de très éclectique, sinon très dispersé. Mais les gens auxquels je me suis intéressé sont des gens qui comptent pour moi depuis très longtemps. Donc je ne me pose pas vraiment la question de savoir si Hergé est plus populaire que Derrida ou Derrida plus à la mode que Paul Valéry. Ça m'est égal. Il se trouve que ce sont des gens qui ont compté pour moi assez tôt et comme je suis plutôt, malgré la diversité de mes centres d'intérêt, plutôt un être de fidélité, il compte toujours pour moi. Paul Valéry, je l'ai lu adolescent, j'ai continué à le lire, j'étais étonné par le tabou qui pesait sur les données biographiques à cause de sa fille, qui veillait un peu comme Anna Freud plus tard, a veillé sur la mémoire de Freud. Et j'avais le sentiment que Paul Valéry était un grand vivant et que l'image scolaire qu'on en avait un peu grise était fausse. Donc j'ai eu envie d'écrire sur lui. Sándor Ferenczi, quand j'ai découvert sa correspondance avec Freud, j'ai eu le sentiment d'un personnage extraordinairement attachant, d'une pensée extrêmement forte, aussi de cette histoire belle du disciple qui met beaucoup de temps, peut-être trop de temps, à s'affranchir de la tutelle du maître. Et donc, voilà, ces histoires-là me parlent. Alors que la personne soit connue ou moins connue, c'est secondaire. Parfois, on essaie de faire découvrir une nouvelle facette de quelqu'un de très connu. Parfois, on a la chance, comme pour Derrida, d'être le premier à défricher une archive. À d'autres moments, on essaye de remettre un peu en lumière, dans la mesure où on est capable de le faire, une figure qui serait oubliée ou méconnue. Vous savez, la gloire de Paul Valéry était extraordinaire. En 1945, c'est les funérailles nationales voulues par De Gaulle. Et puis il y a des éclipses de cette gloire, et puis il y a des retours. Valéry lui-même disait « il y a des siècles où Racine ne sert à rien ». Et puis il y a des siècles où à nouveau Racine devient fondamentale, parce qu'un nouveau metteur en scène a su éclairer son œuvre, parce que des actrices, des acteurs ont su refaire vivre les textes. Alors voilà, c'est aussi ça qu'on fait, c'est peut-être déplacer les lignes. Quand Valéry était dans sa gloire, quand il était un petit peu le Bossuet de la Troisième République, selon son propre mot, Walter Benjamin était un exilé, perdu et pauvre à Paris. Lequel des deux aurait pu imaginer l'inversion de leur gloire? Et qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est Benjamin qui, dans le monde entier, est célébré comme une figure, et Valéry qui, à tort, paraît à certains anciens poussiéreux négligeables. Peut-être que dans 50 ans, les choses se seront encore inversées ou qu'ils seront portés au même niveau d'intérêt, ce qui pour moi est la réalité.
Vous parliez de fidélité, Benoît Peters. Il y a une personne que vous rencontrez lorsque vous êtes enfant, vous avez 12 ans je crois, et qui vous accompagne encore aujourd'hui. Et cette personne, eh bien, vous a laissé un message et un certain témoignage que voici.
On était sur le même banc de l'école à 12 ans et c'était une évidence qu'on fait tout de suite trouver, je dirais. C'était immédiat. Presque chimique, comme ça, on avait le plaisir de se raconter des histoires ensemble, peut-être de faire des blagues ensemble, on était quand même quelque part des garnements. J'ai souvent pensé qu'on était un peu des quick et flup, pour reprendre un auteur qui est cher à Benoît, Hergé. On a fait un journal très très jeune ensemble, et donc il y a eu une complicité presque immédiate et très joyeuse, parce que ça passait beaucoup par l'humour et par le plaisir de rêver des histoires un peu folles ensemble.
Qui venons-nous d'écouter, Benoît Peters?
François Schuiten, ou Schuiten, comme on dit parfois en France, et comme il dit parfois lui-même quand il veut obtenir la chambre d'hôtel qui a été réservée à son nom. Et François, donc ami de classe, entre 12 et 14 ans, et collaborateur de très longue date pour beaucoup d'albums, Les Cités Obscures et beaucoup d'autres aventures, des expositions, des films, différentes choses. François, c'est un lien très fort parce que c'est un lien qui n'est pas d'ordre purement professionnel. Enfant, non seulement nous faisions ce petit journal ensemble, mais nous pratiquions la peinture sous la direction de son père, qui était architecte, mais aussi peintre, et qui le dimanche nous accueillait dans son atelier, moi avec mes tubes de peinture à l'huile et étoiles, un peu prétentieux. Alors le samedi, le père de François nous emmenait visiter des expositions, que ce soit Delacroix, Paul Klee ou d'autres. Et le dimanche, il nous demandait de faire un écho, ce qui n'est pas évident à 12 ou 13 ans, évidemment, non, de refaire un Delacroix. Et de ce moment-là, est resté un attachement extrêmement fort aux images, même si je ne suis pas devenu un homme d'images. J'ai adoré travailler avec des gens d'image. J'ai un regard, je crois que François y est sensible, j'ai un regard complice sur le dessin. Je sais qu'une image ne surgit pas n'importe comment, qu'il ne suffit pas, par exemple, pour celui qui se dit scénariste, de la décrire, mais plutôt qu'il faut susciter le désir de cette image, qu'il faut la faire entrevoir.
Vous parlez du travail de scénariste de bande dessinée.
Oui,
de bande dessinée que vous écrivez avec François Chutaine qui lui dessine.
Mais je crois que tout ça est lié à cette complicité enfantine et cette pratique du dessin et de la peinture ensemble. Alors lui avait pas mal d'années d'avance sur moi, même si nous avions le même âge, puisque dès l'âge de 5 ou 6 ans, son père avait vu en lui le dessinateur qu'il deviendrait et lui faisait faire des exercices à ses yeux, beaucoup plus important que les travaux scolaires. Moi, je n'avais pas eu d'éducation artistique, mais j'avais un vrai amour de la peinture. Et cet amour est toujours là, comme j'ai un vrai amour de la photographie et plus banalement du cinéma, comme beaucoup de gens de ma génération. Mais je dirais que parmi les gens qui veulent écrire pour les autres, donc les scénaristes, j'ai connu pas mal d'écrivains qui le faisaient et qui, quelquefois, ne me semblaient pas laisser assez de place à l'image, assez de respiration au dessinateur, ou à l'artiste, ou au photographe. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai appris dès l'enfance avec François et qui est toujours là. Et puis, entre nous, il n'y a pas de séparation des tâches. Nous sommes co-auteurs de ce petit monde imaginaire des cités obscures. Nous l'avons rêvé ensemble. Nous avons imaginé les histoires ensemble. Et puis, j'ai écrit les textes et il a dessiné les images. Mais c'est véritablement quelque chose que nous avons fait en collaboration. Et peut-être d'ailleurs plus largement, n'ai-je travaillé dans ma vie qu'en collaboration? Parce que qu'est-ce qu'une biographie sinon la collaboration avec un disparu, avec une grande ombre qui est là près de vous, quelqu'un qui vous observe, qui parfois vous interpelle et avec qui vous essayez de rester à la fois respectueux, proche, un peu insolent mais toujours empathique. Enfin, c'est comme ça que je le vis, que ce soit quelqu'un de mort depuis longtemps comme Sandor Ferenczi ou Valéry, ou quelqu'un que j'ai connu comme Derrida ou Hergé. Je les ai bien connus, j'ai connu beaucoup de leurs proches. Et ils ont toujours été là à côté de moi. Donc c'était une forme de collaboration in absentia, à mes yeux, très précieuse et très importante. Je crois que je n'ai finalement presque jamais écrit seul.
Et en tout cas, ça a donné les intégrales des Cités obscures. Donc le premier tome est publié en 1983. Et puis régulièrement, ils paraissent, alors parfois sous forme de bande dessinée traditionnelle, parfois ce sont comme des albums, on a l'impression d'aller au musée, vous le dites, l'image prend toute la place. Ça donne cette forme très hybride, qui est là le fruit d'une collaboration dont on comprend la complicité qui vous cimente, et qui est complètement hors catégorie, parce que là, c'est plus seulement de la bande dessinée que vous faites. Là.
Alors je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis du temps à me rendre compte que la philosophie et les sciences humaines, les auteurs que j'avais lus et aimés ont considérablement marqué ce travail. Il y avait par exemple cette idée assez tôt d'un ensemble où les parties soient reliées, connectées, mais en même temps qu'il reste un ensemble ouvert. C'est un système qui ne peut jamais trouver sa fin. Il n'y a pas de complétude des cités obscures. Et je me suis dit, des années après, bon, évidemment, des images comme celles des rhizomes de Deleuze et Guattari étaient là, mais aussi les fameux et supposés incompréhensibles nœuds borroméens de Lacan, dont je suivais incidemment le séminaire quand j'arrivais à m'échapper de mon cours officiel. Et Lacan parlait de ces nœuds impossibles, puisqu'ils sont à la fois inclus et incluants. Il n'y a pas de possibilité quand ces trois nœuds s'entrecroisent, c'est un peu comme le ruban de Möbius ou les dessins d'Escher, il n'y a pas de possibilité de décider lequel est le maître. Et ça, c'est au fond une des clés de la construction des cités obscures. Et puis, bon, les cités obscures ont été, par exemple pour un album comme La Tour, l'occasion de lire et de relire beaucoup de textes. Alors peut-être le lecteur ne s'en rend pas compte, mais par exemple, Coiré, Alexandre Coiré, dans plusieurs livres, a été une des sources de l'album La Tour. Voilà, donc il y a comme de la philosophie en contrebande à l'intérieur de ces bandes dessinées, mais ce n'est pas sur un mode didactique, bien sûr, et le lecteur n'a pas besoin d'avoir lu nos références pour entrer dans ces histoires.
Je le confirme. Alors, si on s'approche de votre cœur, derrière Hergé, Derrida, Valérie, Ferenczi et tout l'univers de la bande dessinée, on entend ceci. Place, tiens, Amy Winehouse et cette chanson Back to Black dans votre cœur, Bruno Peters.
La première fois que j'ai entendu cette chanson, un matin, elle m'est immédiatement restée. J'ai voulu savoir qui c'était, je l'ai réécoutée. Et puis bon, pas si longtemps après, il y a eu la disparition tragique d'Amy Winehouse. Et évidemment, cette présence encore plus forte. Alors on parlait de voix tout à l'heure, la voix d'un philosophe. Mais là, on a cette voix, cette présence près de nous. Et puis bon, quand on voit les images d'Amy Winehouse et son histoire, évidemment, c'est une dimension qui touche énormément. Mais je crois que si j'ai choisi cette chanson, c'est parce qu'elle donne une part de moi qui ne m'est pas évidente et qui, je crois, traverse une grande part de mes attirances. Il se trouve que je suis plutôt de tempérament heureux et d'un rapport... assez lumineux au monde et au quotidien et aux rencontres, mais que je ne me suis presque intéressé qu'à des figures qui étaient porteuses d'une dimension de noirceur ou de mélancolie ou de tragédie. Barthes, quand je le côtoyais, je le voyais par instant. J'ai découvert chez Hergé les accès dépressifs profonds et les blessures d'enfance incroyables. Chez Derrida, la difficulté à écrire l'a paralysé jusqu'à l'âge de 32 ans et seule une pratique d'écriture presque frénétique et d'enseignement permanent lui a permis d'y échapper. Chez Ferenczi, c'est là aussi. Alors je me demande parfois, mais pourquoi mais quelle est cette part de moi-même qui me fait choisir des gens apparemment loin de moi?
Et vous avez la réponse à cette question ?
Eh bien, je ne sais pas, c'est que l'écriture nous donne accès à d'autres choses. Ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est que souvent, cette face sombre des personnes auxquelles je me suis intéressé, je ne l'ai découverte qu'en travaillant. Mmh. Donc, l'attirance était là, et les raisons de cette attirance ne se révélaient que peu à peu. Donc, il y a sans doute chez moi aussi cette part plus sombre, mais très enfouie, qui se révèle à travers ce compagnonnage. Et chaque exercice biographique, puisque c'est quand même une des choses qui m'importe le plus aujourd'hui, chaque exercice biographique est vécu comme une rencontre longue, intense et, si j'ose dire, amicale avec une personnalité. Je ne suis pas du tout à ce titre-là, pas plus que je ne suis un philosophe professionnel, je ne suis pas un biographe professionnel. Il faut que la rencontre ait lieu et il y a un fil fragile pendant l'écriture qui est-ce que ce mélange d'admiration et d'amitié que j'ai pour la personne sur laquelle j'écris, est-ce que cela va se maintenir jusqu'au bout ou est-ce qu'un jour une rencontre, un témoin, une archive vont me faire tomber de ma chaise et me décevoir? Au fond, je n'ai pas peur d'une face sombre ou même de part de négativité. Il y en a chez Hergé, par exemple, il y en a chez Valérie, bien sûr. Je n'ai pas peur de ça, j'aurais peur plutôt d'une déception quant à la personne, de quelque chose de plat ou de médiocre. Et heureusement, arrive. Chez ces gens-là, je ne l'ai jamais trouvé. Mais pour moi, la biographie n'est non plus pas de l'ordre du jugement. Et mon éthique, parce que je pense que l'éthique est fondamentale dans l'écriture d'une biographie, mon éthique est certainement de ne pas être plus sévère avec ceux sur qui j'écris et dont les archives me sont ouvertes. Vous vous souvenez de la formule de Sartre, on entre dans un mort comme dans un moulin. Et je n'aimerais pas que cette ouverture débouche de ma part sur une sévérité plus grande que celle qu'on pourrait un jour avoir à mon égard.
Et est-ce que vous pensez que c'est cette part noire et obscure que vous découvrez en travaillant sur les auteurs sur lesquels vous travaillez qui vous fait écrire? Est-ce que vous pensez que c'est le moteur caché de votre travail?
En tout cas, quand on s'intéresse à quelqu'un, que ce soit dans l'amitié ou dans les amours, on est toujours... comment dire, à la rencontre d'une forme de complexité, et c'est peut-être ça qui nous intéresse. Donc, voilà, c'est accepter dans la part de l'autre ce qui est autre, ce qui parfois nous dérange ou nous déconcerte. Si l'individu se réduisait à son parcours social, à son image médiatique, je pense que ce serait une immense déception. Et moi, je ne suis jamais gêné, par exemple, par les contradictions qu'on voit dans la vie de quelqu'un. Bon, pour éviter les sujets contemporains, prenons Rousseau. Évidemment, l'attitude de Rousseau par rapport aux enfants qu'il a eus et n'a pas élevés n'invalide rien de son œuvre. Mais ça la met en perspective de manière extrêmement, extrêmement forte. Et c'est très étrange, ce jeu-là, enfin, cette acceptation de ce qui fait d'un être un mystère insoluble et que l'épaisseur de la biographie n'y change rien. C'est d'ailleurs sur un exergue de ce type que s'est ouvert mon gros livre sur Derrida. Personne ne saura jamais à partir de quel secret j'écris et que je le dise n'y change rien. C'est vrai pour chacun de nous.
Et ça s'applique à vous-même? Vous avez déjà eu l'idée d'esquisser ce qui serait une autobiographie, de voir comment ça fonctionne si vous appliquez votre méthode à vous-même?
sans doute qu'on le fait par touche et par éclat à travers tout ce qu'on écrit, bien sûr. Et puis, comme disait Flaubert, c'est bien pour les vieux jours.
Ah, donc on en reparlera dans quelques années. Est-ce que c'est un plaisir pour vous d'écrire?
Alors c'est un plaisir de chercher, c'est un plaisir d'imaginer, c'est un plaisir de parler. Écrire en tant qu'acte, c'est plus ambigu. Voilà, je dirais que je préfère presque tout l'amont au moment de l'écriture, mais bon, quand j'y suis, oui, j'essaye d'y trouver le plus de plaisir possible.
Bah, vous en avez mais c'est une votre petite... métier quand même.
Oui, mais c'est parfois un labeur, c'est parfois une profession aussi, hein, sans jouer les Flaubert.
C'est-à-dire profession dans le sens douloureux
une
du
patience,
terme.
Quoi. Une patience, une exigence, une sévérité par rapport à soi-même, et peut-être parfois des... Voilà, on se bloque. Alors, c'est assez amusant. On voit ça dans la correspondance de Gide, où il dit assez tard, je crois à Paul Valéry, ah, je bute dans l'écriture de ce texte, je n'y arriverai jamais. Et alors, Valéry dit, bah, tu as déjà fait 40 livres. Oui, mais j'ai pas progressé, j'en suis toujours au même point. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que je ressens quelquefois. Peut-être parce que je fais des livres très différents. Parce que chaque livre impose ses propres règles, sa propre méthode, et on a l'impression d'être un éternel débutant. Et ça, je pense que c'est rassurant peut-être pour ceux qui nous écoutent de se dire, ben on en est tous un peu au même point. C'est difficile, oui. C'est difficile de faire un bon livre.
Attention, changement d'ambiance.
C'est un monopole naturel. Voilà. Alors là, franchement, j'étais convaincu l'an passé là-dessus.
D'abord, Pascal, c'est
mais,
pas la...
c'est... mais le gra... la grève, c'est pas
non,
le sujet.
Non, mais c'est pas la privatisation qui vient, c'est l'ouverture. Les... Non, oui. C'est l'ouverture à la concurrence, qui est quand même pas tout à fait pareil.
C'est un monopole naturel.
Écoutez, dans les pays
parce que c'est l'aménagement du territoire.
Dans les pays où ça a été fait, d'accord, vous me permettrez tout de même de ne pas être d'accord avec vos assertions. Dans les pays où ça a été fait, l'opérateur de service public a gardé 80% des lignes.
Alors quand on vous a demandé quel événement tiré de l'actualité ou de l'air du temps vous souhaitiez non pas commenter, mais à partir duquel vous pourriez réfléchir, Benoît Peters, vous avez dit bah, cette espèce d'impératif de bavardage, la figure de l'intellectuel qui distribue des opinions à tout va. Alors on a pensé, voilà, bah, on a une archive du 21 octobre 2019, c'était l'émission L'heure des pros sur CNews où on n'entend rien. C'est ça qui vous soucie aujourd'hui? Vous dites on n'entend plus la voix des gens qui essayent de penser, c'est ce quoi des opinions?
Oui, je ne sais pas s'ils essayent vraiment de penser, mais en tout cas de parler, d'être présents, d'être visibles à l'image. J'ai grandi, je me suis formé dans une époque de retenue de la parole, où l'intellectuel hésitait. J'ai retrouvé une archive extraordinaire de Derrida, où on veut l'interroger à la radio sur Blanchot, et il fait une longue lettre pour dire... Je connais tellement l'œuvre de Blanchot, elle m'importe tellement que vous comprendrez que je ne puisse pas répondre à votre invitation et venir en quelques minutes, etc. Bon, chez Foucault, chez Bourdieu, chez d'autres, il y avait cette réticence. Chez Foucault, cette idée de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire parler de la prison parce qu'on a travaillé sur l'histoire de la prison, parler de la folie parce qu'on s'est confronté à ce sujet. Et puis on est passé dans une scène de... bavardage, de narcissisme philosophique dont nous connaissons les grandes figures. Elles sont apparues, d'ailleurs, quand j'étais étudiant, avec la nouvelle philosophie, dite nouvelle philosophie. Et puis, on n'a même plus ça. On a eu vraiment les querelles d'ego, les querelles de mots, le péremptoire. Derrida disait au début d'une interview « Si je peux faire plus d'une phrase, chez vous, on peut le faire, et Dieu soit loué dans pas mal d'autres endroits. » Mais à la télévision, par exemple, c'est devenu absolument impossible. Et cette idée... qu'on devrait avoir une opinion instantanée sur tout, du jugement, de la méchanceté, trouver la phrase qui tue, l'argument polémique, casser l'autre sans l'avoir entendu. C'est la négation du dialogue philosophique et c'est la négation de la place de la pensée dans les médias et ça m'afflige. Alors j'essaye de parler de ce que je connais quand on me le demande, parfois je m'aventure un petit peu au-delà, mais cette idée d'être sur cette scène bruyante, confondre le pugilat et l'art de la conversation, véritablement je ne le supporte pas, je ne le comprends pas, comme je ne comprends pas les faux experts comme on en a entendu tant quand c'était la guerre d'Irak, c'était les experts militaires improvisés, ça a été le Covid, ça a été les faux experts. C'est quelque chose qui véritablement me donne la nausée.
Mais est-ce que ça veut dire que le philosophe, les philosophes ne devraient pas aller sur les plateaux télé? Si on vous invite, si Pascal Praud vous invite et vous laisse le temps de parler d'un sujet que vous connaissez, vous y allez ou pas?
Si je suis compétent sur le sujet et que l'émission est digne, pourquoi pas? Mais j'essaierai d'écouter l'autre et j'espère qu'il m'écoutera et que l'argument ne sera pas instantanément interrompu. Bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir avoir un cours de philosophie ou un cours de sciences politiques, etc. Mais de trouver un espace de parole. Bon, certains ont réussi à le trouver et d'autres, je crois, s'y sont égarés. Et, aujourd'hui, j'ai plus d'estime pour la parole fragile d'une Greta Thunberg que pour beaucoup d'intellectuels autoproclamés, parce qu'elle reste sur le terrain qu'elle a choisi, parce qu'elle le dit avec force, mais en même temps avec une forme de sérénité. Et je trouve que beaucoup de nos intellectuels feraient bien d'écouter...
Ah oui, mais là, vous parlez de la forme, pas du fond.
Oui, mais d'un fond informé, je trouve qu'il y a, par exemple, chez cette jeune fille moquée par certains, une véritable expertise, parce qu'elle est focalisée sur un sujet. Vous ne l'entendrez pas parler de tous les sujets, intervenir sur tout et n'importe quoi. Je pense que la visibilité de l'intellectuel ne doit pas tenir de l'omniprésence, qu'il faut venir sur les champs où on a quelque chose à apporter, et sur lesquels on a travaillé. Ça, c'est fondamental. Il y a un travail de la pensée, et de même que je n'aime pas qu'un médecin devienne expert en droit de l'homme ou en écologie, je n'aimerais pas qu'un spécialiste de Kant ait un avis sur tous les sujets. Je trouve cela parfaitement vain, inutile et déplaisant. Autant la curiosité d'un Barthes me séduit, autant elle reposait sur un véritable travail. Les mythologies, c'est quelque chose qui s'est élaboré avec 4 à 5 ans de réflexion sur des objets précis. Quand Barthes parlait du catch, il était allé voir plusieurs fois des matchs de catch. Il n'avait pas réagi en 10 minutes comme une sorte de touriste de la pensée.
Mais est-ce que c'est le rôle aussi du philosophe, par exemple, de s'engager ? Est-ce que le travail fait dans les livres suffit quand parfois une conscience politique peut encourager à prendre les armes autrement ou à faire entendre sa voix autrement ? Ou est-ce qu'il faut vraiment distinguer les deux ? Est-ce que les intellectuels doivent se taire dans la cité ou doivent prendre la parole ?
Un livre est un engagement. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir a été un engagement fondamental. Les concepts de Deleuze ou son abécédaire ont été un engagement et libérateur pour beaucoup. Je pense qu'en remettant en avant la figure de Ferenczi et toutes les questions qu'il soulève sur le soin, sur les enfants abusés, sur peut-être une manière différente de concevoir la relation thérapeutique, je m'engage. Mais je m'engage sur un terrain que j'ai travaillé, même si je ne suis pas moi-même psychanalyste, mais simplement ami de la psychanalyse. Ce qui me gêne, c'est au fond cette pensée presque automatique, cette idée qu'on aurait réponse à tout. Il y a longtemps eu, et c'est la philosophie qui me plaît le plus, une philosophie de la question, et du questionnement, et de l'interrogation, voire de l'aporie. Et il y a, chez certains, une pseudo-philosophie de la réponse. Et ça me gêne énormément.
Eh ben, on restera sur les questions, ça me va, c'est ce qui se passe généralement ici. On va se quitter avec une chanson, c'était votre proposition aussi, Benoît Peter, c'est une chanson d'Alain Souchon. Et si en plus, il n'y a personne, pourquoi ce choix ?
C'est une chanson qui résonne terriblement avec l'actualité, et qui est peut-être une façon respectueusement de laisser dire ce que j'ai envie de dire sur le fanatisme et un mauvais usage de la religion.
Merci beaucoup Benoît Peter d'être venu nous parler de vous ce matin. Votre dernier livre est donc une biographie de Sandor Ferenczi, L'enfant terrible de la psychanalyse. On le trouve aux éditions Flammarion.
Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonne. Et si en plus il n'y a personne, Abderrahman, Martin, David, et si le ciel vide.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver notre moment archive du vendredi, la philo dans le rétro. Aujourd'hui, remontons jusqu'en 1967 et découvrez cette discussion entre Raymond Aron et Michel Foucault.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Les idées et l'histoire.
Je laisse la parole à Raymond Aron et à Michel Foucault.
Ce qui se passe actuellement, c'est la dissociation entre, si vous voulez, l'homme comme objet de la philosophie et puis l'homme comme sujet de sa propre expérience. J'ai dit tout à l'heure objet de la philosophie, je voulais dire objet du savoir, objet des sciences humaines, etc. Il est évident que l'homme comme sujet de sa propre expérience appartient à une société, à une culture, appartient à un champ qu'on peut structurer. Ceci dit, l'homme comme objet de la réflexion, comme objet du savoir, comme objet de l'analyse, c'est un champ qui est évidemment entièrement ouvert pour nous. Et je crois que votre œuvre, précisément, l'a ouvert. Mais l'a ouvert par une dissociation entre l'homme-sujet et l'homme-objet, si vous voulez, un postulat anti-fichtéen qui me paraît caractériser la pensée contemporaine.
Oui, je ne voudrais pas poursuivre ce dialogue parce que je ferai immédiatement une réserve sur la tendance fichtéenne et la tendance hegelienne, et vous me diriez que les deux font partie de la même épistémé, et nous serions obligés de nous élever à un niveau d'abstraction et d'air raréfié, où le sociologue que je suis à moitié devenu respirerait difficilement. Alors j'aimerais mieux vous pousser sur un autre point qui m'intéresse beaucoup et qui en même temps est difficile pour vous. Vous montrez à quel point les épistémés des différentes périodes sont différentes. Traduisons épistémé en langage ordinaire et disons qu'il y a une structure de pensée propre à chaque époque et d'une certaine manière vous suggérez que l'on ne peut pas penser simultanément dans deux époques. S'il s'agissait par exemple de l'histoire de la science économique, je serais tenté de vous suggérer que l'épistémé de chaque époque ou la façon de penser de chaque époque comporte tout de même à titre de germe les manières de penser des autres époques, c'est-à-dire que les manières de penser sont moins radicalement différentes que vous ne le faites. Mais je voudrais vous suggérer dans quelle structure de pensée ou dans quelle épistémé êtes-vous. Et si vous êtes à la fois dans l'épistémé déjà passé et dans celle qui s'annonce, vous démontrez par votre propre exemple qu'on peut être à la fois dans deux façons de penser, c'est-à-dire où vous situez-vous, c'est-à-dire quel est le point à partir duquel vous montrez la séparation irréductible des façons de penser, tout en niant cette irréductibilité par votre être même.
Écoutez, à toutes ces questions, je vais tâcher de répondre par deux ou trois phrases, enfin disons deux ou trois rubriques. Premièrement, la discontinuité. La discontinuité, bien sûr, c'est un très grave problème, mais vous savez bien que c'est un problème qui se pose aux historiens. Le problème de la périodisation dans l'histoire économique, dans l'histoire sociale se pose. Il n'y a pas de raison que les historiens des idées soient en retard du point de vue méthodologique sur les historiens de l'économie ou des sociétés. Dans le domaine des idées, il y a des problèmes de périodisation qui se posent. Et cette périodisation est relative au niveau auquel on se place et à l'objet qu'on choisit. Deuxièmement, je suis peut-être discontinuiste dans le temps, mais disons que j'ai la vanité, c'est ma seule vanité à propos de ce livre, j'ai la vanité d'avoir établi, je crois pour la première fois, la continuité synchronique, les rapports de simultanéité qu'il y avait entre des champs épistémologiques aussi différents que l'étude du langage, l'étude de l'économie et l'étude de la biologie. Donc j'ai acheté une discontinuité au prix d'une continuité ou inversement, comme vous voulez. Maintenant, vous me demandez où je suis, je vous répondrai tout simplement aujourd'hui. Et peut-être est-ce que le rôle du philosophe actuellement, c'est d'être non pas le théoricien de la totalité, mais le diagnosticien, si vous me permettez ce mot, le diagnosticien d'aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs qu'en disant ça, je fais écho au moins au souvenir que j'ai de la lecture de l'introduction à la philosophie de l'histoire.
En vous écoutant, j'avais envie précisément d'évoquer mon passé, mais je ne suis pas absolument sûr que notre accord soit aussi total que la politesse l'implique actuellement, car malgré tout, vous impliquez une discontinuité et qui est dans une certaine mesure contradictoire avec ce que j'entendais par l'ouverture sur l'avenir, mais ça nous ramènerait à votre problème de la discontinuité que vous avez tourné gentiment en parlant de la continuité dans le moment. Mais la continuité dans le moment, c'est un peu la structure ou la totalité, ce qui serait une manière de relancer notre dialogue, mais je pense que c'est le moment de l'arrêter.
C'était une archive de 1967. Merci Raymond Aron, merci Michel Foucault, et qui sait, à bientôt peut-être. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la réalisation aujourd'hui, c'était Nicolas Berger et Esther Valencic. À la prise de son, Valentin Bobinet. On se retrouve lundi pour une nouvelle série autour de la philosophie d'Emmanuel Kant. Lundi, on vous proposera 4 émissions pour ne plus avoir peur de Kant à partir des 4 concepts fondamentaux de son travail. Le transcendantal lundi, l'insociable sociabilité mardi, l'impératif catégorique mercredi et enfin jeudi, le mal radical. 4 concepts qu'on va décrypter ensemble et expliquer pour vous. Et vous verrez, à la fin de la semaine, vous n'aurez plus du tout peur de Kant. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Abonnez-vous, comme ça vous écouterez l'émission où vous voulez et quand vous voulez. À lundi donc, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.